Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est FAQ.
Ça part ici.
On est de retour dans le 7, il est 7h16 actuellement, donc je suis en direct avec mon invité d'aujourd'hui, Frédéric Bouchard. Bonjour Monsieur Bouchard.
Bon matin.
Donc vous êtes professeur ici à l'Université de Sherbrooke dans le département de géomatique appliquée.
Exact.
Et ce matin, on va parler un peu de vos recherches. Donc vous avez fait des recherches dans le Manitoba. Donc sur quoi reposaient un petit peu vos recherches de cet été?
En gros, c'est des recherches sur la dynamique des lacs et du pergélisol, le sol gelé des régions froides. Et donc, les impacts du dégel du pergélisol sur les écosystèmes aquatiques comme les lacs, les mares, les tourbières. Et donc, on est parti avec une équipe d'étudiants et de collègues français vers le nord du Manitoba à Churchill et aussi dans le parc national de Wapusk, qui est un parc juste à côté de la ville de Churchill.
Pourquoi vous avez choisi Manitoba? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce qu'on vous a envoyé là-bas? Est-ce que la région est particulièrement intéressante?
La région est particulièrement intéressante. Donc, c'est, on a choisi ça pour plusieurs raisons. En fait, c'est tout près de la baie du Thon, qui est une immense mer intérieure. C'est assez particulier comme environnement. C'est dans le centre du nord du Canada. Et présentement, il y a beaucoup de recherches qui se font dans l'est de l'Arctique et dans l'ouest de l'Arctique et assez peu, finalement, dans le centre de l'Arctique. Et Churchill, c'est assez particulier parce qu'il y a à la fois la forêt boréale qui se termine juste au sud, il y a une immense tourbière des basses terres de la baie du Thon, et il y a aussi de la toundra tout à fait là, près de la côte. Donc, il y a comme trois grands écosystèmes qui se succèdent dans la région. Et il y a aussi du pergélisol qu'on dit continue, donc qui est présent partout, et il y a la limite avec le pergélisol discontinu juste au sud qui affecte seulement certaines régions. Donc c'est un endroit où il se passe plein de choses à la fois géomorphologiquement, écologiquement, différents environnements. Il y a moins de recherches qui se fait qu'ailleurs en Arctique. Donc il y avait plusieurs raisons qui nous ont convaincus d'opter pour ce site-là.
Vous parlez de pergélisol. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Quel est son impact sur l'environnement?
Évidemment. Donc, le pergélisol, c'est très simple. C'est n'importe quel sol ou n'importe quelle roche, n'importe quel matériau, finalement, avec une température en dessous du point de congélation, sous 0 degré Celsius. Ça veut dire que ça peut être de la tourbe gelée avec plein de glace dedans, mais ça peut aussi être de la roche tout à fait plate, sec, sèche. Donc, c'est n'importe quel matériau en bas de 0 degré Celsius. Et pourquoi ça a un impact? Pourquoi c'est important? Bien, il y a le dégel du pergélisol avec le réchauffement climatique actuel. Ça a au moins deux types d'impacts. Des impacts qui sont très locaux, on va dire, et importants pour les communautés. C'est-à-dire que lorsque ça dégèle, lorsque la glace fond dans le sol, ça va affecter le sol qui va s'affaisser. Et s'il y a des infrastructures construites là-dessus, comme des bâtiments, des routes, des pistes d'atterrissage, chemins de fer, etc., bien évidemment, ça va affecter la durabilité des infrastructures. Donc, c'est des impacts très concrets pour les communautés de l'Arctique. Mais il y a aussi des impacts plus à l'échelle globale, planétaire, je pourrais dire. Donc, à certains endroits, le pergélisol contient de la matière organique, donc du carbone organique qui a été gelé. C'est comme du vieux compost qui a été gelé il y a des siècles ou des millénaires. Et là, lorsqu'il dégèle, bien, il va remettre en circulation de la matière organique, des débris végétaux, des feuilles, des racines, par exemple, qui vont être partiellement décomposés et bouffés, mangés par les micro-organismes qui produisent des gaz à effet de serre comme le CO2 puis le méthane. Donc, le dégel du pergélisol a aussi des impacts à grande échelle ou à l'échelle planétaire sur le climat. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'étudier.
Bien sûr. Et du coup, quels étaient les objectifs qui découlaient de votre recherche et des résultats que vous avez obtenus?
Donc, il y avait, si on veut, deux volets. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai démarré, quand je suis arrivé il y a 2 ans ici à l'Université de Sherbrooke, j'ai démarré un programme de recherche sur les lacs dans le nord du Canada à plusieurs sites, incluant Churchill. Et j'ai des collègues en France, à Toulouse, qui devaient démarrer un projet dans les tourbières de l'ouest de la Sibérie. Oui. Et manque de chance, en 2022, début de la guerre en Ukraine, la Russie, finalement, a fermé ses portes aux chercheurs occidentaux. Mm-hmm. Et j'ai dit à mes collègues toulousains, vous savez que la plus grande tourbière au monde en zone de pergélisol est en Sibérie de l'Ouest, mais la deuxième plus grande au monde est à Churchill ou enfin les basses terres de la baie du Thon. Et donc, on a, si on veut, combiné nos efforts de terrain, d'échantillonnage sur le terrain pour le même site cet été. Donc, notre équipe à nous ici à Sherbrooke, plutôt pour les lacs, et l'équipe Toulouse plutôt pour les tourbières. Mais en fait, autour de Churchill, c'est à perte de vue des tourbières et des lacs. Mm-hmm. Donc, il y avait un terrain de jeu pour les deux équipes. C'est finalement, on a combiné nos efforts. Et les objectifs, finalement, c'était d'aller échantillonner de l'eau, des sédiments, de la tourbe, pour, d'une part, évaluer l'état de santé des écosystèmes, si on veut, actuels. Oui. Mais on a aussi prélevé des carottes. Donc, des carottes de tourbe gelée, de pergélisol, et aussi des carottes de sédiments lacustres pour reconstituer l'histoire de ces environnements-là. Donc, en analysant différentes couches de sédiments, de tourbe, de sol, on peut comme ça retourner dans le passé et raconter un peu ce qui s'est passé. Est-ce que, par exemple, les changements actuels sont dans la variabilité naturelle des choses ou bien si c'est quelque chose qui est sans précédent, par
D'accord.
exemple?
Est-ce que vous avez déjà obtenu des résultats suite à ces recherches? Est-ce que c'est en cours d'obtention? Est-ce que les résultats que vous attendez, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y attendez, etc.?
Oui, la réponse, c'est un peu de tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a mesuré certains paramètres avec des instruments qui nous permettent d'avoir des résultats immédiats, du genre température de l'eau, pH, conductivité. On a vu qu'il y avait une grande variabilité dans la plupart des écosystèmes. Par contre, pour les échantillons de sédiments ou de tourbe gelée, il y a encore des échantillons qui sont en train de revenir de là-bas par cargo. Il faut que ça reste gelé. C'est un peu compliqué. Donc, finalement, les analyses vont avoir lieu entre cet automne et le printemps prochain. Okay. On espère avoir une bonne idée, là, si on veut, avant la prochaine mission de l'été prochain.
Ben, justement, en parlant de mission, vous allez où l'été prochain?
Ben, l'été prochain, on prévoit retourner à Churchill pour raffiner, si on veut, et compléter notre échantillonnage de cet été. Et j'ai aussi un autre programme avec un autre groupe d'étudiants à Cambridge Bay, qui est au sud de l'île de Victoria, dans l'ouest du Nunavut, dans l'ouest de l'Arctique. Et on prévoit également y retourner l'été prochain. Okay. On est allé cet été en juillet et on va probablement retourner en juillet 2024. Donc, juillet ou l'été prochain, assez occupé encore une fois.
Mm-hmm. Donc, est-ce que vraiment vos recherches là-dessus, c'est sur le long terme? Est-ce que vous prévoyez de les continuer encore pour les prochaines années, etc.?
Oui, madame. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi, ben, on s'intéresse évidemment à la science fondamentale, les questions de recherche qu'on a comme professeur, comme chercheur. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de développer des collaborations, des partenariats avec les communautés locales là-bas. Comme par exemple à Cambridge Bay ou Nunavut, on essaie de tisser des liens avec les pêcheurs, chasseurs, trappeurs là-bas, la communauté Inuit de Cambridge Bay, ou Iqaluk Tutiyak, le nom en Inuktitut ou en langage local. Et par exemple, à Churchill, c'est aussi des gens de la communauté. C'est plutôt mix, la communauté là-bas à Churchill. Et il y a aussi des gens de, par exemple, Parc Canada. Donc, on essaie aussi de développer des projets à long terme avec les gens de Parc Canada pour vraiment faire un suivi des écosystèmes. C'est intéressant de prélever des échantillons maintenant, mais c'est aussi intéressant dès aujourd'hui ou dès maintenant d'installer des petits instruments ou de faire un suivi environnemental sur le long terme pour que, par exemple, dans 10 ans, on puisse vraiment avoir une bonne idée à quel point ça a changé ou pas, ou à quel point c'est important, tout ça. Donc, on s'installe, je l'espère, pour le long terme dans ces sites-là.
Écoutez, on l'espère aussi. Écoutez, merci beaucoup, M. Bouchard. C'était vraiment un plaisir de vous parler ce matin. Et puis, je pense que nos auditeurs, auditrices en ont appris beaucoup sur ce domaine-là. Donc, écoutez, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Quant à nous, écoutez, on repart en musique et on va parler un petit peu de l'actualité de Sherbrooke juste après.